Bonjour à toutes et à tous, votre espace d'échange d'informations. Aujourd'hui, planche sur l'alphabétisation. Qu'est-ce que c'est? Quelle importance? Quel état des lieux en Côte d'Ivoire pour répondre à ces questions et à bien d'autres? Nous sommes avec des invités en studio. Il s'agit notamment de Ngué Sankrou Emmanuel. Bonjour.
Bonjour, Madame Anzian.
Vous êtes le président de l'ONG GATIC, groupement des alphabétiseurs pour les technologies de l'information et de la communication.
Effectivement.
D'accord. Avec vous, mais en ligne, depuis Cinématiali, Mathieu Ouédraogo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'UACI, Union des apprenants de Côte d'Ivoire. Nous irons également dans quelques instants retrouver Assoubré pour son témoignage, Kwaku Amani. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, tout de suite, pour faire simple, l'alphabétisation, c'est apprendre à lire, écrire et calculer. Mais encore, on va tout de suite avec vous, Ngué Sankrou Emmanuel.
Très bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour, chers auditeurs. C'est un plaisir de nous retrouver ici à Radio de la Paix. Effectivement, l'alphabétisation, c'est l'ensemble des compétences pour une personne d'apprendre à lire, écrire et calculer. Et chez nous, on ne se limite pas aux compétences instrumentales, parce que nous on appelle lire, écrire, calculer les compétences instrumentales.
D'accord.
Nous allons au-delà même des compétences instrumentales. Nous avons aussi le domaine numérique qu'on appelle les compétences numériques. Nous travaillons avec les femmes à l'aide des téléphones. Elles apprennent à lire, écrire à partir des téléphones. Et ces compétences numériques-là leur permettent de maîtriser les outils informatiques. Et quand on sait qu'aujourd'hui, presque toutes les entreprises sont des plateformes digitales, il est important pour nous que même si ces femmes ne sont pas là à l'école, elles puissent avoir la chance aussi de pouvoir être à l'air du temps.
D'accord,
avec
d'une
le
pierre,
digital.
deux coups.
Très bien.
On aura en tout cas le temps de parler de vos activités de terrain en faveur de l'alphabétisation. Tout de suite avec vous, Mathieu Ouédraogo, un mot sur l'alphabétisation, ce que c'est?
D'abord, je voudrais remercier pour cette opportunité que vous m'offrez de parler de l'alphabétisation.
Je vous en prie.
D'abord, l'alphabétisation, c'est au-delà du savoir lire et écrire, l'alphabétisation construit l'individu, l'homme en général, parce que c'est sortir quelqu'un de l'obscurantisme et puis envoyer la personne à la lumière. Voilà.
D'accord. Avant de revenir à vous, chers invités, on va retrouver Cissé Assiata. Elle est la directrice nationale de l'alphabétisation des adultes, des jeunes et des enfants du ministère de l'Éducation nationale et elle nous parle du taux d'alphabétisation en Côte d'Ivoire.
Je suis désolée de le dire, on avait fait une cartographie il y a très longtemps. Nous sommes en train de réactualiser cette cartographie. Sinon, les taux forts, c'est généralement au nord, au nord-ouest, nord-est. Mais ce n'est pas d'actualité. Nous sommes en train de reprendre la cartographie. Ça fait partie de nos perspectives, la cartographie de l'alphabétisation en Côte d'Ivoire.
Cissé Assiata, elle est la directrice nationale de l'alphabétisation des adultes, des jeunes et des enfants du ministère de l'Éducation nationale. Et à l'instant, elle nous parlait du taux d'alphabétisation en Côte d'Ivoire. Alors, c'est vrai que les études sont en cours pour des chiffres, mais pour vous qui êtes sur le terrain, quel est votre constat? Quel est l'état des lieux? On va y aller avec vous depuis Cinématiali, Mathieu Ouédraogo.
D'accord, le constat, vraiment, sur l'ensemble du territoire national, bon, je pense que dans certains endroits, l'alphabétisation reste une option. Elle reste une option parce qu'il n'y a véritablement pas de communication concernant l'alphabétisation. Particulièrement actuellement, je suis à Cinématiali et après avoir parcouru, j'ai vu que vraiment le travail est en train d'être fait. C'est difficile, certes, d'accéder à certaines zones de Cinématiali, très difficile pour ces encadreurs ou même d'avoir des encadreurs bénévoles pour pouvoir accomplir cette tâche-là.
D'accord.
Donc le constat reste encore vraiment litigé. Il y a encore vraiment beaucoup à faire.
Alors, tout à l'heure, Cissé Assiata a parlé du fort taux d'analphabétisme au nord de la Côte d'Ivoire. Vous y êtes en ce moment. Quelles sont les causes?
Vraiment, c'est une sonnette d'alarme que Mme Assiata vient de souligner. Le taux d'analphabétisme dans le nord est vraiment... on doit mettre vraiment beaucoup l'accent dessus. Et puis, les causes, c'est que c'était d'abord le fait culturel, parce qu'il y a des décennies où scolariser la jeune fille particulièrement, ou les jeunes, était vraiment un sujet tabou, plus focalisé sur les travaux champêtres et les travaux de rente et puis dans le commerce. Donc tout ce qui est éducation, c'était vraiment pas trop leur affaire. Donc cette culture-là est restée un peu entre guillemets dans les cerveaux, ce qui rend difficile le système éducatif non formel dans le Nord.
Voilà. D'accord. Je vous remercie, Mathieu Ouédraogo. On revient en studio avec vous, Nguessankou Emmanuel. Constat
oui,
par rapport à l'alphabétisation.
Le constat, il est vraiment amer parce que j'ai effectué plusieurs voyages au nord de la Côte d'Ivoire. Sans parler de Folon, sans parler de toutes ces zones-là qui sont vraiment touchées par le taux très élevé de l'analphabétisme. Vous savez, aujourd'hui, on a un souci, c'est que nous sommes en train de travailler sur le fait que ce ne soit plus les femmes qui viennent vers l'alpha, mais que ce soit l'alpha qui parte vers les femmes. C'est pour cela que nous parlons de digitalisation. Parce qu'il y a des zones très reculées de la Côte d'Ivoire où on n'a pas accès. Vous imaginez, quand vous partez à Bouna, par exemple, vous arrivez dans des endroits où des femmes même ne savent même pas s'exprimer en français. Et aujourd'hui, on en parle, mais il faut interpeller les autorités, il faut interpeller les personnes ressources pour que cette alphabétisation puisse aller plus loin. Parce qu'à Abidjan, on a la possibilité d'apprendre. Mais à l'intérieur du pays, c'est vraiment compliqué. C'est pour cela que nous, Gatik, nous sommes en train de travailler pour aller vers ces zones très, très reculées là, où on n'a même pas accès même à Internet. Comment ces personnes vont apprendre? C'est compliqué. Donc, la dame a dit, effectivement, Madame Cécile l'a dit, c'est dans les zones, très souvent dans les zones reculées, et on ne parle pas seulement du Nord, même à l'Ouest, mais dans des situations reculées, vers les frontières, qu'il y a vraiment ce problème-là. Et il faut vraiment en parler.
D'accord, merci beaucoup, Nguessankou Emmanuel. Les femmes en Côte d'Ivoire constituent, selon des données, les deux tiers des personnes analphabètes, ce que reconnaît d'ailleurs Cissé Assiata, la directrice nationale de l'alphabétisation des adultes, des jeunes et des enfants au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation.
Effectivement, c'est même dans le monde entier. Les femmes représentent une proportion très importante. C'est dû au fait que, vous savez qu'en Afrique, hein, généralement, on pense que la femme n'a pas droit à l'éducation, que la femme est juste bonne pour le foyer. Et c'est pour cela même que l'État de Côte d'Ivoire a fait la proposition de la politique de scolarisation obligatoire qui prend en compte l'équité. Autant l'homme a droit à l'éducation, la jeune fille aussi a droit à l'éducation. Et c'est ce qui explique un peu ça. La jeune fille, je le disais tantôt, est soumise aux travaux domestiques, au mariage précoce. Et il y a aussi des préjugés, il y a l'ignorance, il y a les facteurs économiques. Le niveau de pauvreté des populations fait qu'ils préfèrent scolariser le jeune garçon que de scolariser la jeune fille.
À l'instant, nous écoutions Cissé Assiata du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Nguessankou Emmanuel, vous avez fait, comme vous le disiez à l'instant, un peu hein, toute cette zone du nord du pays. Alors, notre interlocutrice qui a été interviewée par Junior Carbin a relevé quelques soucis au niveau des préjugés, des facteurs économiques qui font qu'on priorise le petit garçon au détriment de la petite fille.
Effectivement, dans nos traditions, vous savez que très souvent au Nord, on s'est dit que les femmes sont faites pour le ménage, les femmes sont faites pour la maison et les hommes doivent aller travailler pour venir nourrir la famille. Mais aujourd'hui, c'est un peu erroné parce que quand on parle aujourd'hui de l'objectif 2030 de l'UNESCO, on parle surtout de l'égalité du genre. On parle de l'égalité du genre, de l'égalité des sexes parce qu'aujourd'hui, la femme est le pilier central pour nous de l'éducation. Une femme bien éduquée, c'est une société qui est très bien éduquée. Vous imaginez aujourd'hui, ce sont ces femmes-là à la maison qui lave les enfants, qui les envoie à l'école. Le papa l'est déjà parti. Mais les femmes, elles ne savent pas lire écrire. On a eu même des réalités, par exemple, où l'enfant n'a même pas un examen et il vient dire à la maman, « Maman, j'ai eu mon examen. » On tue un poulet, on mange le poulet et à la fin, maman se rend compte que l'enfant n'a pas eu l'examen. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas lire écrire, calculer. Ce sont ces femmes-là qu'on doit mettre en avant. C'est pour cela que nous, dans toutes nos activités, ce sont ces femmes-là qu'on met en avant. Parce que les hommes, ils peuvent se débrouiller. Un homme avec sa force physique peut se débrouiller. Les femmes, elles sont le moteur du développement économique des pays, il faut le dire. C'est vrai que nous sommes des ifforchis, comme on le dit, mais il faut reconnaître que ces femmes-là, si elles sont bien éduquées, qu'elles ont l'éducation, c'est toute une nation qui gagne.
D'accord. Alors, puisque vous parlez de mettre en avant les femmes, au niveau en tout cas de l'ONG GATI, qu'on va retrouver pour parler de celles qui n'ont pas eu la chance d'apprendre à lire et à écrire et calculer à Soubré, Kwaku Amani. Bonjour.
Bonjour, madame.
On vous écoute pour votre témoignage. Quelle est votre histoire? Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas pu, on va dire, aller à l'école?
Bon, ok. J'ai eu un nouveau un peu au CM2, voilà, mais ce n'était pas suffisant, il y a des trucs que je ne me retrouvais plus.
D'accord, vous avez commencé mais pas terminé, d'accord.
Tout à fait.
Mmh. Allez-y.
Mmh. Et donc, quand je, avec l'ONG GATI, ça m'a permis à mieux comprendre encore et réparer les défauts, ce que je n'arrivais plus à me retrouver.
Qu'est-ce que vous avez appris concrètement avec l'ONG GATI?
L'ONG GATI nous a appris à écrire, à lire mieux et à surtout faire des factures et faire des calculs. Oui.
Et qu'est-ce qu'aujourd'hui vous tirez de tout cet apprentissage avec l'ONG GATI?
Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé parce qu'il y a beaucoup de choses. Étant petite que tu as oublié après combien d'années, et vraiment moi ça m'a ramené à mieux me retrouver dans mes calculs et aussi à l'écrit, ce que je n'arrivais pas, j'ai pu maintenant le faire et à mieux lire aussi.
D'accord, et vous faites partie d'une coopérative?
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous faites au sein de cette coopérative?
Je suis la présidente de la coopérative du vivrier au niveau de la Nawa. Nous faisons du vivrier, aubergine, piment et tout. Manioc, curry.
Et tout se passe bien?
Oui, ça va, ça se passe bien.
Et on sait que généralement dans le domaine du vivrier et tout, il y a quand même une majorité de femmes qui ne savent ni lire ni écrire et tout. Qu'est-ce que vous faites justement pour leur venir en aide?
Justement, ceci nous a motivés à apprendre avec l'ONG GATI. Vraiment, parmi nous, il y a certains qui n'ont même pas à faire un peu. Et il y a d'autres qui avaient commencé, qui n'ont pas pu terminer. Voilà, et c'est ce qui nous a motivés vraiment à pouvoir apprendre avec moi. On allait avec 50 femmes, voilà. Elles ont beaucoup appris en tout cas. Et celles qui ne savaient même pas écrire même, qui ne savaient même pas calculer et tout ça, en ce moment-là, elles ont pu apprendre beaucoup de choses.
D'accord. Kwaku Amani, en tout cas, on vous dit merci pour votre témoignage. Si vous aviez un mot à l'endroit de toutes ces femmes qui vous écoutent, de toutes les personnes en général qui ne savent ni lire ni écrire.
Bon, ce que je peux leur dire, c'est de toujours apprendre. Il ne faut jamais dire que tu ne veux pas, c'est fini. En tout cas, on peut toujours apprendre. Quand on veut, on peut toujours apprendre. Et ce que nous, on a eu à faire, on a aussi travaillé sur nos tablettes, voilà, qui a été offert par...
Une compagnie de téléphonie, d'accord, on aura compris. Merci.
Ah, d'accord. Excusez-moi. Donc, à partir du portable tactile, on arrivait à travailler à partir du portable.
D'accord.
Voilà, ça a beaucoup aidé. Il y a d'autres mecs qui ne savaient pas manipuler aussi un portable tactile. Et tout ça aussi, ça fait partie aussi de l'alphabétisation.
D'accord. Et il faut dépasser aussi la honte parfois qu'on ressent pour pouvoir justement apprendre.
Oui, c'est ça.
D'accord. Kwaku Amani, encore merci.
Merci beaucoup.
Et surtout, bien de choses à tout le monde du côté de Soubré.
D'accord, merci beaucoup, madame.
Retour en studio avec Nguesson Krou Emmanuel. Alors, un mot à dire juste après le témoignage de Kwaku Amani.
Oui, il faut reconnaître que ces braves femmes qui sont des femmes leaders, il faut leur donner la capacité de pouvoir s'exprimer. Vous voyez, aujourd'hui, on a des femmes qui ont une difficulté énorme à pouvoir s'exprimer comme ça sur une chaîne de radio. Et ça fait plaisir de savoir une femme qui a été formée, aujourd'hui puisse s'exprimer. Et c'est ce qu'on veut. On recherche des femmes leaders qui pourront elles-mêmes exprimer leurs besoins et qui pourront aussi faire sortir tout ce qui leur manque dans la société, parce qu'elles sont les femmes leaders. Et vous voyez qu'elle, par exemple, c'est une dame qui gère toute une coopérative de plus de 500 femmes. Vous imaginez, parmi les hommes, il y a des hommes même dedans. Et si elle manque quand même de tact, c'est difficile pour elle de pouvoir s'imposer. Donc aujourd'hui, elle est vraiment satisfaite, les autres femmes la soutiennent. Et on aimerait que ce genre d'activité-là se perpétue, en fait. Voilà. Et c'est joli, je lui dis merci, parce qu'elle nous a fait honneur. Et puis voilà, on va faire encore plus, parce que 47% de taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire, pour nous, c'est trop. C'est trop, 47%, c'est trop. Surtout que nous sommes un pays émergent, il faut y penser. Parce que pour nous, l'analphabétisme est un frein au développement social, économique et tout ça, en fait.
D'accord. Mathieu Ouédraogo, on revient à vous.
Oui, allô?
Oui, on revient à vous, Mathieu Ouédraogo. Alors, vous avez également une histoire en lien avec l'alphabétisation. Au départ, vous étiez analphabète et apprenti couturier. Et votre histoire a démarré en 2003.
Oui, en 2003. Voilà, parce que véritablement, j'ai quitté le cercle familial Yam Sokro. Voilà, pour Abidjan, pour juste la couture. Sur mon nom, parce que j'ai pas eu cette chance-là d'aller à l'école comme tout autre enfant des réseaux de santé. Voilà. Alors, arrivé étant couturier, je fais la couture pendant plus de 5 ans. Alors, avec une petite connaissance de la couture, étant analphabète, vraiment, j'avais des difficultés parce que les clientes à mon patron, elles se moquaient. Et mes collègues aussi, pour me vexer, me humilier, me demandaient souvent de prendre les mesures des clientes. Alors, c'était vraiment très, très difficile. Et là où vraiment j'ai eu des difficultés, j'étais dans une agence pour un versement de la part de mon patron dans une banque. Alors là, vraiment, c'était la catastrophe parce que j'ai perdu plus de 3 heures, personne ne voulait s'occuper de moi. Alors c'est comme ça que j'ai eu vraiment cette grâce-là où une cliente m'a recommandé que mes collègues préféraient que tu fasses les cours du soir pour pouvoir avoir au moins une petite connaissance, comme ça, ça va t'aider. Parce que face à elle, je n'arrivais pas vraiment à faire les mesures comme il se devait. Alors là, elle m'a proposé de trouver une école. Dieu merci, j'ai trouvé l'école du côté de Makori Sikoji. Là, je suis allé me renseigner. La scolarité coûtait, l'année, c'était à 15 000 francs. Voilà, que la dame a décidé de payer pour moi. Et Dieu merci, comme ça, j'ai pris goût à la chose. Et puis, vu mon handicap, je ne savais pas lire et écrire. Alors, c'est à partir de là que j'ai vu que j'ai commencé à comprendre les choses de la vie. J'ai commencé à m'aider. Mais vraiment négliger certaines choses, ça a été difficile dès le départ parce qu'il y avait le complexe, aller m'asseoir et puis avec les amis, dire que non, toi tu fais le cours du soir, la journée tu n'as pas vu clair, c'est la nuit toi tu penses voir clair. Vraiment tout ça, ça a failli me décourager et j'ai pris le courage à deux mains avec la motivation des encadreurs, des animateurs et aujourd'hui vraiment le résultat est là parce que de la part analphabète, je me retrouve au niveau supérieur aujourd'hui, vraiment, c'est un réel plaisir, c'est un défi que j'ai pu relever par la grâce de Dieu.
Et vous avez su braver ce complexe pour aujourd'hui devenir président de l'UACI, qui est l'Union des apprenants de Côte d'Ivoire.
Oui, vraiment, braver ce complexe-là, parce que même quand j'allais pour composer pour l'entrée en sixième, j'étais avec les enfants du cours du jour. Mais les enfants me disaient, mais tonton, tu es au CM2. Je disais, oui. Et les enfants se moquaient, mais tonton, tu as doublé. Tonton, tu es encore au CM2. Mais ils ne pouvaient pas comprendre ce que je ressentais et puis d'entendre tout cela. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu vraiment braver toutes ces difficultés, ces complexes liés à plusieurs choses, complexes liés à Dieu à l'âge, complexes liés à la situation sociale, tout ça. Mm-hmm. Et jusqu'au niveau supérieur, j'ai pu même avoir le DPC, le CP, le BAC, le DUT. Et vraiment, par la grâce de Dieu, actuellement, bon, j'ai eu la grâce même de présenter un concours, voilà. Et puis le concours a marché en tant que maître éducateur permanent.
Félicitations.
Voilà, j'ai fini la formation depuis l'Institut national de la jeunesse et des sports. Mm-hmm. Voilà, donc vraiment, c'est pour dire que, au-delà même de savoir lire et écrire, l'alphabétisation m'a permis de réécrire mon histoire.
D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes bien placé pour savoir l'importance de l'alphabétisation.
Tout à fait. Voilà la raison pour laquelle partout où je suis, que ce soit en Abidjan, à l'intérieur, dans les bus, dans partout où je suis, en tout cas, je ne manque pas de... Moi, je prêche l'alphabétisation comme nos parents chrétiens, musulmans prêchent la religion. C'est comme ça, moi, je prêche l'alphabétisation partout là où je passe.
D'accord. Alors justement, on va encore rester un moment avec vous, Mathieu Ouédraogo. Vous avez mis sur pied l'UACI, qui est l'Union des apprenants de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans le cadre de cette association ?
Au sein de cette association, je fais le fort d'une manière bénévole à réinsérer certaines personnes qui sont vite sorties du cursus scolaire. Voilà, des personnes qui n'ont pas, peut-être par faute de moyens, n'ont pas pu continuer. Je donne cette motivation, je les encourage à retourner en luttant pour avoir des subventions, ça et là, des personnes de bonne volonté, à les ramener sur les bancs de l'école. Et puis je procède toujours par des sensibilisations pour que les personnes comprennent que l'alphabétisation, ce n'est pas une perte de temps, c'est quelque chose vraiment qui est salutaire. Parce qu'on sait que tout ce qu'une personne adulte n'apprend mieux que lorsque la personne est motivée. Alors, en utilisant mon histoire derrière cette organisation, j'arrive à motiver certaines personnes pour que ces personnes reprennent encore la confiance en elles-mêmes et ça facilite aussi l'insertion de ces personnes-là. Et je ne manque pas avec mon organisation de sillonner les centres d'alphabétisation là où on peut, partout où le besoin est, chaque soir, à parler de mon histoire, à prendre l'histoire de certaines personnes qui ont réussi de par l'alphabétisation. Et nous organisons aussi des journées d'excellence dans le domaine de l'alphabétisation pour récompenser les meilleurs apprenants et motiver aussi les personnes qui sacrifient un temps soit peu de leur temps en laissant les chaînes câblées, tout ce qui est distraction pour venir apprendre à savoir lire et écrire. Donc nous intervenons dans tout ce sens-là juste pour faciliter le retour à l'alphabétisation pour ces personnes qui se disent parfois déjà âgées, qui n'ont plus rien à prouver. Tant qu'on a encore la vie, il faut toujours croire, il faut toujours espérer. C'est comme ça que nous procédons avec notre organisation.
D'accord, je vous remercie. On revient à vous, Nguesson Crou-Emmanuel.
Oui, effectivement, déjà, il faut souligner que l'Afrique détient le taux le plus élevé au niveau de l'analphabétisme, 40% en Afrique d'analphabétisme. Vous voyez que c'est compliqué, parce que avec les guerres, avec toutes les situations que nous vivons, c'est compliqué pour nous de pouvoir sortir notre continent de l'analphabétisme. Bon, pour cela, on souhaite que des radios comme la vôtre puissent vraiment encourager dans ce domaine afin qu'on ait des émissions où on parle de l'alpha, parce que les gens ne comprennent pas. Quand on parle de l'alpha, pour certaines personnes, c'est seulement apprendre à lire.
Quand on dit alpha, vous parlez d'alphabétisation. D'accord.
Voilà. Les CPS pensent que c'est juste pour savoir lire, écrire et calculer. Non, ça sont les compétences instrumentales. Mais il y a d'autres compétences, comme les compétences professionnelles. Chez nous, par exemple, on apprend ce qu'on appelle la gestion du stock, on apprend le budget familial. C'est tout un ensemble de formation.
Quelle est votre cible principalement? C'est vrai que vous ciblez les personnes qui ne savent ni lire, ni écrire, ni compter.
Il y a aussi des personnes qui savent lire, écrire, mais qui ont abandonné, qui ont raccroché, qui sont allés en sixième, mais qui n'ont pas eu la possibilité.
Au CM2, comme Kwaku Amani.
Qui n'ont pas eu la possibilité de continuer. Il faut rattraper. On appelle ça un renforcement des capacités. D'accord. Ce qu'on appelle la post-alpha. Donc, c'est important pour nous d'interpeller pour que vraiment toutes les personnes soient prises en compte. Donc, vraiment, on vous remercie et on sait qu'avec vous, on pourra sensibiliser encore plus de personnes pour que l'alphabétisation soit quelque chose vraiment qui soit pris en compte dans notre quotidien. Parce qu'on rencontre souvent des difficultés. Je prends un exemple simple rapidement d'une maman qui a divorcé avec son mari. Et la deuxième femme que le monsieur a épousée, le monsieur a enlevé le nom de la dame et a mis le nom de sa deuxième femme. Et la maman, elle ne savait pas. Et c'est arrivé à l'examen, on a demandé les extraits de naissance des enfants, et c'est là qu'on va constater, la femme va constater que depuis près de 6 ans, sa propre fille n'a pas son nom sur son extrait de naissance. Et c'est pas lié. On lui envoie les extraits depuis ce gars-là, et elle regarde, pour elle, c'est normal. Pourtant, c'est pas son nom. Le monsieur a mis le nom de sa deuxième femme. Vous voyez la catastrophe. Demain, on peut dire que ce n'est pas l'enfant de la mère, alors que c'est l'enfant de la mère. Donc ne pas savoir lire et écrire, c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment compliqué.
Alors vous procédez par le numérique, vous l'avez dit, on a également eu confirmation à travers le témoignage de Kwaku Amani.
Oui, effectivement, on a ajouté le volet numérique, la compétence numérique, parce que ces femmes-là, elles ont des smartphones, mais malheureusement, elles ne savent pas utiliser. Elles utilisent ça juste pour communiquer. Pourquoi ne pas leur donner la possibilité d'apprendre avec des applications embarquées dans ces smartphones-là qui puissent échanger avec elles, même quand le professeur n'est pas là? Parce qu'elles n'ont pas le temps. Il faut souligner que les femmes n'ont pas le temps. Elles sont au marché, elles sont au champ. Et si on a une plateforme numérique qui peut leur permettre d'apprendre à distance, pour nous, c'est super. Donc, avec cette plateforme-là, elle n'est pas obligée d'attendre un professeur, elle n'est pas obligée d'être en classe. Donc, vous voyez que l'éducation va vers elle. Elle ne se déplace plus et l'éducation est dans son smartphone. Et avec le smartphone, elle interagit avec le téléphone qui lui parle, qui lui dit non, maman, c'est pas A, Non, c'est pas B. Voilà comment on écrit B. C'est fantastique, madame Azian, c'est fantastique. Et on souhaiterait qu'un jour, par exemple, et la radio se déplace pour venir dans un centre d'alphabétisation pour voir ce qu'on fait. Donc vraiment, c'est spécial. Et voilà pourquoi on a obtenu le prix mondial de l'alphabétisation. Ça, il faut souligner. Nous sommes le prix mondial de l'alphabétisation
Confucius.
2021. Confucius 2021, qui est un prix vraiment qui est décerné à des innovations technologiques dans le monde. Voilà, pendant la période de Covid.
D'accord. Mathieu Audraogo, quelles sont les difficultés justement liées à toutes vos activités sur le terrain concernant l'alphabétisation ?
D'abord, il y a assez de difficultés que nous rencontrons sur le terrain relativement à nos activités. Voilà, d'abord, l'alphabétisation pour certains de nos décideurs élus locaux qui devaient peut-être nous accompagner, voilà, l'alphabétisation pour eux est une option. Alors que l'alphabétisation devait être une priorité, une affaire de tous. Malheureusement, ce n'est pas le cas, c'est ce que je constate. On le fait d'une manière bénévole. Le manque de subventions pour ces apprenants-là est aussi un frein à l'apprentissage. Parce que généralement, comme on le disait M. Koukou, ce sont des personnes qui n'ont pas vraiment assez de temps, qui n'ont pas assez de moyens. Donc, pour venir payer, même que ce ne soit que la somme de 1000 francs pour apprendre, c'est tellement difficile pour ces personnes-là parce que 1000 francs représentent beaucoup pour une personne qui est dans une zone reculée, même pareillement que pour le nord, surtout la vie de cinématiques, les champs d'activité. Voilà, donc ce sont ces difficultés. Et puis, la deuxième difficulté, c'est la communication. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'implication de différentes associations. Ils trouvent que l'alphabétisation, c'est une perte de temps. Voilà, donc cette difficulté en matière de communication rend difficile encore nos différentes activités. C'est très difficile de les recruter en masse parce que bon, c'est le dernier souci des personnes là. Alors nous souhaitons qu'il y ait vraiment un soutien de tout un chacun de nous pour qu'on puisse organiser des sensibilisations de masse, aller jusqu'à montrer qu'elle est bien fondée de l'alphabétisation. Donc c'est pour dire que nous rencontrons des difficultés de communication, difficultés de soutien, que ce soit en matière numérique, en didactique. Voilà, parce que ces personnes qui sont parfois des bénévoles qui dispensent ces cours-là aussi méritent au moins une petite source de motivation, de faire bien. Donc ça fait que parfois il y a un abandon des différentes formes d'alphabétisation. Donc ces difficultés sont énormes, mais vraiment pour ne citer que ceux-là qui sont vraiment une priorité.
D'accord. Alors parlons de difficultés et tout. Qu'en est-il pour le complexe lié justement à l'âge des apprenants parfois ? Comment est-ce que vous les aidez à briser ce complexe ?
Moi, je dirais qu'à mon niveau, déjà, c'est une chance, c'est une grâce de Dieu pour moi d'être déjà passé par ce volet-là. Parce que allant déjà à l'alphabétisation, j'avais déjà presque la vingtaine d'âge. Donc j'utilise toujours mon témoignage, mon vécu de l'alphabétisation pour pouvoir briser ce mystère, ce complexe lié à l'âge pour les apprenants. Voilà, comme la dernière fois, j'ai croisé une fille de 19 ans qui n'était pas été à l'école, faire son commerce, mais avec mon âge, si je vais là-bas, ils vont se moquer de moi. Et j'ai dit non, moi quand j'allais, j'étais plus âgé que toi. Et voilà, ici, de ça, quand j'ai donné mon histoire, mon parcours, avec vraiment les preuves à l'appui, j'ai réussi à convaincre cette dernière-là. J'ai pris l'engagement de l'aider à mes propres frais. Difficile parce que nous sommes tous en difficulté financière. Mais Dieu merci, elle a commencé les cours. Donc, c'est pour dire que ma politique de pour briser ce complexe, j'utilise d'abord mon histoire pour montrer que non, ça n'a pas été facile. Mais quand on veut aller loin, on me laisse avancer. Donc, l'âge ne doit pas être un frein à l'apprentissage. L'âge ne doit pas être un frein à tout ce qu'on doit faire. Donc, c'est de fermer les yeux sur ce complexe-là, viser ce qu'on veut et le tout est gagné. Mmh. Donc, j'utilise toujours mon histoire personnelle pour pouvoir les motiver relativement au contexte lié à l'âge.
Nous étions à Cinématiali avec notre invité Mathieu Audraogo. Nous retrouvons tout de suite Nguessan Krou Emmanuel pour encore plancher sur le volet des difficultés. Vous procédez entre autres par l'alphabétisation numérique. Comment ça se passe exactement, on va dire, dans les zones les plus reculées du pays?
Au niveau de l'alpha, l'avantage qu'on a, c'est que nos applications sont offline. Donc, on n'a pas besoin d'Internet.
Offline, pour ceux qui ne comprennent pas.
Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire qu'on n'a pas besoin forcément d'une connexion Internet pour pouvoir travailler sur le téléphone. Du coup, on se retrouve un peu dans le cadre des applications ludiques, des jeux. Quand tu as téléchargé, tu peux jouer sans forcément la connexion. Et c'est tellement intéressant qu'il y a des niveaux d'élévation. Je veux dire quoi? Par exemple, quand la femme a atteint le premier niveau, le téléphone lui dit bravo. Et ainsi de suite, elle avance. Donc, vraiment, c'est tellement intéressant On aimerait que vraiment ce soit quelque chose qui touche tout le monde, vu qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas se déplacer. Et aujourd'hui, les jeunes dans les zones rurales font l'exode, veulent tous venir à Abidjan. Alors que ces jeunes-là peuvent aider ces femmes-là dans les villages pour apprendre à lire, parce qu'ils ont déjà la langue, qui peut faciliter l'apprentissage. Et on exhorte aussi les femmes à elles-mêmes se prendre en charge, parce qu'on a un problème. Les femmes pensent qu'il faut forcément que ce soit d'autres personnes qui viennent les aider. Vous voyez, aujourd'hui, nous-mêmes, étant des jeunes, étant des hommes, on paye des formations. Certaines femmes ont la possibilité, ont des enfants qui sont en Europe. Mais il faut demander à ces enfants-là, mon fils, j'ai besoin d'un peu d'argent pour payer ma formation en alpha. Il faut changer la mentalité. Aujourd'hui, les gens pensent qu'il faut forcément que ce soit l'État. L'État fait ce qu'il peut faire. Mais et elle-même, toi-même qui as besoin d'alphabétisation, est-ce que tu attends forcément quelqu'un? Aujourd'hui, je prends un exemple. On a des femmes, leaders des marchés, qui sont constituées. Ici à Abidjan, par exemple, on a une dame qui aujourd'hui, vous imaginez un témoignage qu'on va vous faire, une femme qui ne savait pas lire, écrire, calculer, qui est devenue aujourd'hui égérie d'une société qui fait, comme on appelle, des bouillons et autres. Vous voyez, grâce à l'alphabétisation, aujourd'hui, elle est sur le calendrier et elle a même rencontré la première dame. Aujourd'hui, c'est une femme épanouie. Elle m'a dit, mon fils, si je savais que grâce à l'alphabétisation, j'allais rencontrer la première dame, je n'allais pas croire. C'est tellement passionnant. Et aujourd'hui, elle est dans le marché, elle exhorte toutes les autres femmes à venir au centre. Il ne faut pas qu'on se limite. Il y a le besoin. Et ces femmes-là doivent prendre sur elles l'engagement elles-mêmes de ce produit. Parce qu'elles ont des associations. Il suffit de mettre 1 000 francs, 1 000 francs, 1 000 francs, 1 000 francs. Et puis, faire un projet sur 6 mois. Et puis, c'est parti. Donc, vraiment, j'exhorte ces mamans-là aussi qui nous écoutent à elles-mêmes se prendre en charge. Parce qu'on ne peut pas attendre toujours des autres. Commençons et le reste, les autres vont faire. Donc, c'est vraiment cette partie-là que je voulais énumérer dans mon propos.
D'accord, je vous remercie. On va terminer notre émission. Mathieu Ouédraogo, quelles sont les perspectives de l'Union des apprenants de Côte d'Ivoire?
Vraiment, je tenais toujours à vous dire merci. Voilà, concernant l'Union des apprenants de Côte d'Ivoire, nous envisageons d'organiser des sensibilisations de masse, voilà, à travers tout le pays, surtout dans les zones reculées. Voilà, ça déjà, c'est un projet qui nous tient à cœur, nous sommes en train de travailler là-dessus. Voilà, je pense que nous aurons des personnes morales ou physiques qui nous accompagnent dans cette démarche-là, parce que savoir lire et écrire vraiment est un élément essentiel pour le développement de tout individu et de tout le pays. Nous sommes tous d'accord qu'une personne analphabète représente un danger pour elle-même et pour toute une société. Avoir une sensibilisation de masse sur l'ensemble du territoire national et puis susciter ces personnes-là, même ces jeunes qui sont soit affectés ou qui sont sur place dans des zones reculées ou partout sur l'ensemble du territoire, on va les intéresser à l'alphabétisation afin que ces derniers-là, d'une manière bénévole, puissent retransmettre ce qu'ils ont appris, ce qu'ils savent déjà, parce que savoir lire est déjà une chance. C'est que nous sommes en train d'envisager tous nos projets à venir et aussi à inciter ces personnes aussi analphabètes à ne pas vraiment rester dans l'obscurantisme en pensant que le petit peu qu'ils ont est déjà suffisant pour eux. Non, nous voulons les faire sortir de cette mentalité-là pour leur dire qu'il y a encore beaucoup à apprendre, il y a encore de la lumière pour tout le monde. Donc nous sommes en train de travailler sur tous ces projets et puis faciliter vraiment l'insertion et l'apprentissage de tout un chacun.
Un appel à lancer pour terminer?
Je dirais à toutes les personnes qui sont à l'écoute de cette émission-là de ne pas faire de l'alphabétisation une option, de faire de l'alphabétisation une priorité, de faire de l'alphabétisation une affaire sérieuse, et de prendre l'exemple du révolutionnaire Fidel Castro qui a pu réduire l'alphabétisation en moins de 1 an, de voir le cas du président de la Tanzanie, Julius Nyerere, qui a travaillé sur l'alphabétisation et dit à toutes ces personnes-là qu'ensemble, nous avons réussi à vraiment éradiquer l'analphabétisme en Côte d'Ivoire.
D'accord, je vous remercie Mathieu Ouédraogo. On revient sur le plateau avec vous.
Qui vous remercie.
Comme il a dit, ça ne doit pas être une option, mais ça doit être une priorité. Et il faut aider ces femmes-là à pouvoir aider les enfants. Vous imaginez une femme qui ne sait pas lire et écrire, comment cette femme-là peut aider son enfant? Elle ne peut pas. Donc, vraiment, on interpelle nos autorités à pouvoir mettre l'accent sur l'alphabétisation. Déjà que le président a déjà fait des efforts en créant un ministère qui est autant pour l'éducation nationale et que pour l'alphabétisation, on espère que des grandes décisions seront prises pour que nos mamans qui sont dans les villages reculés puissent aussi connaître ce qu'on appelle l'éducation, la lumière pour leur vie. Je vous remercie, c'est toujours un plaisir d'être là. Nous serons disponibles tant que vous voulez, quand vous êtes disponibles, nous serons là pour vous et accompagner ces femmes-là. Je vous remercie, madame.
C'est vous que nous remercions pour votre disponibilité. Ne pas faire de l'alphabétisation une option, mais une priorité. En tout cas, c'est le mot, la phrase qui est revenue hein, avec vous, Nguessan Krou-Emmanuel et Mathieu Ouédraogo. Rappelons que Mathieu Ouédraogo est le président de l'UACI, l'Union des apprenants de Côte d'Ivoire, et Nguessan Krou-Emmanuel, le président de l'ONG GATIC, groupement des alphabétiseurs pour les technologies de l'information et de la communication. Et puis, depuis Soubré, nous avons eu le témoignage de Kwaku Amani. Aujourd'hui, nous avons parlé d'alphabétisation. Merci à tous de nous avoir suivis.